Je suis en roller, je traverse la ville à fond la caisse, j'ai rendez-vous au skatepark. Je pars presque à l'heure du rendez-vous. Je prends de la vitesse dans la grande avenue, je vais plus vite que tout ce qui existe. On me voit presque pas passer. Une voiture freine devant moi, je l'évite en enjambant d'un bond agile la bordure de la route. Et je continue sur la voie de bus. Je me sers de ce que l'espace urbain a à m'offrir, comme un skateur expérimenté. Exemple, je me sers de l'épaisseur du trottoir pour m'aider à déraper dans un virage serré. Comme si la ville devenait un mur d'escalade. Dans ce bref instant, une ou deux secondes, mon corps tout entier est couché, et le sol est à la verticale, et devient un mur que je grimpe avec ses prises. Fugacité. Je n'ai pas peur de me frotter au goudron, de m'étaler tout entière. Je n'ai pas peur de la vitesse. Je circule dans un autre espace-temps que le reste du monde.
R22 Tout Monde. Antenne ILOR. Vaguer. Errer ça et là. Aller de côté et d'autre de l'aventure.
Ces carnets ils contiennent des rêves que je faisais pas avant d'arriver en Bretagne, avant de rencontrer l'ILOR. Par exemple, le skate, c'était une pratique que je connaissais pas auparavant. Au départ, il y avait ce cliché duquel tu pars de la figure du skater. Le cliché, c'est l'adolescent rebelle qui traîne avec ses potes, qui porte des habits de marque et qui fait chier les riverains. Et enfin, j'ai dépassé ce cliché-là. Je me suis intéressée à tout ce que cette pratique questionnait dans la ville, dans un groupe humain. De gens qui se retrouvent et qui consacrent un temps fou à glisser sur une planche à roulettes. Et je me suis mise à devenir skateuse dans mes rêves. J'ai jamais aussi bien skaté que à l'intérieur de mes rêves. Mais ça, c'est impulsé par un moment tout petit où je marche avec des skateurs. Tout à coup, le groupe s'arrête. Il y en a un qui dit « Ah, ce plan incliné là, ça pourrait faire un super spot, on pourrait faire ci ou ça ». Moi, le jargon, je l'ai pas, mais tout à coup, votre intérêt, une sorte de, ouais, de capture de l'aménagement urbain que je voyais pas, donc je me suis mis à le regarder et à me dire « Ah ouais, ça peut servir à faire des trucs, ok ». Je me couche, je fais un rêve dans lequel je me mets à moi-même avec mon corps glisser sur un plan incliné et kiffer et ressentir des émotions que j'ai jamais ressenties dans la vie réelle où je marche dans la rue et je traverse des espaces sans me poser de questions. Ouais, ça a donné une autre dimension à la ville. Ça m'intéresse de me rendre compte que, en fonction de la perception que t'as de la réalité, tout peut avoir un sens nouveau et qu'il n'y a pas une seule réalité. plus j'écris mes rêves, plus mes rêves ils s'enrichissent de détails. Je me suis rendu compte que c'était dans ces petits détails que qu'il se passait des choses importantes. C'est rassurant de se dire qu'il y a des moments dans la vie où ton cerveau il crée des choses, des espaces, des gens avec des visages, des scénarios, des émotions aussi, mais qui sont libres, quoi. Tu n'as aucun contrôle de ce qui va se passer. C'est un terrain vague. Du coup, la plaine de Beaux, la première fois que je l'ai expérimenté, c'était à travers mon écran d'ordinateur. En regardant la vue satellite et en l'analysant, on m'avait invité à faire un projet artistique sur cette portion de Zach. Je ne connaissais rien à l'endroit, au lieu, au contexte. Je connaissais personne. Donc du bout du doigt, tu navigues, tu regardes les images prises par le satellite. Tu vois des constructions dans le passé, mais qui ne sont plus là, dans les vues récentes. Des choses qui ont disparu. Et c'était un objet d'étude, la plaine de Beaux. C'était l'objet de mon travail, quoi. J'étais là pour un mois, quoi, de passage. Et j'étais pas supposée rester. Ce premier rapport, où tu regardes la carte, c'est plutôt vide comme portion de la carte. C'est blanc. Il n'y a pas de nom de route encore. Mais tu sais que dans la réalité, c'est pas une zone blanche. Il s'y passe des choses. Et en fait, peu à peu, le lieu s'est révélé, quoi. Pendant des jours, des semaines, j'écoutais ce que les personnes avaient à me raconter sur la plaine de Beaux. J'allais interviewer des gens, je récoltais des témoignages.
La dame, là, comment je sais pas qu'elle s'appelle, dans le virage, là, dans l'angle, là, où qu'était le Perruon dans le temps, mais enfin, je me rappelle plus. Si, comment qu'elle s'appelait,
Claire,
là.
Claire, qui a 3 enfants.
Peut-être bien, peut-être bien. Avant, où que t'es... Oh, mais je connais que les noms des gens dans le temps, moi.
La maison basse, hein? La maison basse.
Non.
La haute.
C'est celle qui est dans l'angle, là. Dans l'angle.
J'allais moi-même explorer la zone. J'ai appris pour les jardins partagés, les jardins ouvriers disparus, le chapiteau qui a brûlé, cet incendie... Les vaches qu'il y avait avant sur la plaine. Et la guerre où une bombe a explosé juste à côté. Et peu à peu, ouais, je lui ai pris du sens.
Au même moment où t'atterrissais, il y avait un lieu qui apparaissait aussi. Et même qui était en cours d'être cartographié. Et ça s'appelait l'île Oer. Comment on rencontre l'île Oer?
Bah déjà, il y a eu cette balade. Derrière une usine qui semble vide, des tonnes de roches empilées, du granit brillant et lisse, poli, mat, des carrés de pierre sculptés et façonnés qui semblent avoir été prélevés dans une cathédrale. Je grimpe une pile de blocs de granit pour voir derrière le muret. Un homme avec un costume foncé d'une société de transport sort du bus et allume une cigarette. Je vois un grand réverbère. Il faut au moins 10 mètres, il y en a plusieurs. Au sommet, 4 projecteurs orientés vers le sol et éteints. Comme des pétales. Je repense à la vue satellite. C'est elle, la fleur, que j'ai repérée depuis l'écran de mon ordinateur. La seule différence, c'est l'ombre du pylône. Dans la réalité, l'objet n'a pas d'ombre. Le soleil se couche, le ciel est immense et orange. On passe un mur et on entre dans le jardin d'une maison vide. Des gravats, des murs défoncés. Le toit n'est pas en trop mauvais état. Sans doute que le devenir de cette maison, c'est de disparaître. Une alarme sonne et on part en courant. J'arrive. Le skatepark, il existe déjà.
Mais le lieu est vide au moment où tu y arrives.
Il n'y a personne. Juste ces détails qui indiquent qu'il y a bien des gens qui entretiennent l'endroit. Ça a d'abord été un terrain de jeu, quoi. Quand je suis arrivée, j'ai vu les modules. C'était parfait pour courir, sauter dans tous les sens et glisser sans skate. Le groupe, il était constitué. Le groupe d'amis, vous connaissiez depuis des années par la pratique du skate. Et cette pratique, j'étais pas initiée. Je me retrouve face à une bande de skateurs. J'entre sur les lieux, on me regarde de travers. Je suis la seule femme. Je vois pas de femme autour de moi. Il y a un peu une phase de où on se reniflait, où chacun prenait sa température, où j'étais un peu silencieuse. Donc j'aurais pu être complètement larguée, mais il y a une porte qui s'est ouverte et j'ai l'impression d'avoir pu prendre le train en route. Du coup, je suis revenue.
Journal de bord, 2018. Mardi 16 janvier. La maison Oudak, ainsi que les ateliers d'artistes situés en face, sont détruits. L'arbre à kiwi, qui devait normalement rester intact, a été abattu. Les ouvriers l'ont confondu avec le cerisier.
On allait cueillir des kiwis sur cet arbre par centaines. On les a épluchés. Et ces kiwis, j'en ai fait de la confiture. J'ai travaillé pendant des heures. J'ai une trace... je crois, dans mes carnets. Numéro 11. Fabrication. Donc, le 15 décembre 2017. Fabrication de la confiture de kiwi. 10 pots. Une après-midi dans la cuisine de Verne, sur Sèche. 5 documentaires audio. Une trentaine de kiwis épluchés et découpés en morceaux. Zeste d'orange et de citron. Je mets la moitié en poids de sucre. Trop sucré. La prochaine fois, je prends du sucre blanc.
Samedi 16 décembre. Descente à l'abri. Bardage de la porte. Pose de tôle transparente sur le préau et de tôle goudronnée sur le toit de la paillote. Préparatif de la soirée. Début du feu. 17h30. Diane arrive. Installe la cantine et une sono. Éclaire la zone de vie et la cabane avec une lampe de chantier. Le chemin et un module de skatepark avec des bougies. Installation de l'espace documentation dans la cabane. Le classeur de recherche est rendu public pour la première fois. Concert avec un trio de musiciens, trombone, guitare, batterie. Le public se compose de 30 personnes, une petite cinquantaine au total de passages sur l'ensemble de la soirée. Plus mixte que lors des événements précédents. 12 personnes dans la cabane lorsque la pluie se met à tomber. Rangement à 3h30. De la musique provient du 48.
Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
J'ai l'impression comme si au début j'étais là un peu comme une masse informe au contour pas dessiné. J'étais là et je revenais, je m'impliquais dans des actions mais sans vraiment mettre la main à la pâte. J'ai pas reçu de texto, par exemple, pour participer au chantier. J'aurais bien voulu recevoir un SMS. Couler du béton et me donner bourriner. Je crois que c'est important d'aborder les nœuds qui ont existé au sein de l'histoire de l'île-OR. Soit qui ont été mis sur la table collectivement, soit qui ont été ressentis intimement chez chacun d'entre nous. Parce que on est fragile et vulnérable, quoi. On est des humains. J'ai jamais fait partie de groupe. J'ai plutôt fui les groupes. Les effets de groupe, c'est pas juste un rejet, c'est un sujet qui me passionne et qui m'enflamme tant que je trouve que l'injustice est grande. Je réagis sensiblement au sujet du localisme et j'hésite pas à gueuler quand je sens des propos excluants. Il y a des cas sociaux, des gens qui font de la merde sur la zone, comme il y a des gens qui font de la merde dans la vie. Qu'on est tous en chantier et que le monde il est fait de ça. Chercher à mettre des règles, imposer des règles sur une portion de zone, c'est reproduire ce avec quoi on n'est pas d'accord à l'échelle de la société. Alors qu'accompagner, parler du lieu, sa fabrication, des tonnes de béton, là l'inconnu il va comprendre de lui-même l'importance qu'a cet endroit et se comporter en fonction. Il faut que le cheminement se fasse. En donnant des règles directes, on comprend pas. Et si on les respecte, c'est par soumission, pas vraiment par compréhension. Non mais c'est ça que je veux dire en fait. Quand tu es étranger, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, enfin les frontières sont pas juste physiques quoi. Tu es censé montrer qui tu es par tes actes et parfois redoubler d'efforts pour te faire accepter ou bien juste tolérer au sein de la communauté. Et moi j'avais pas ce fonctionnement de base. Et en même temps, même si c'était pas le même fonctionnement, ce qui s'est produit, c'est qu'on en parlait. Il y avait une écoute, une ambiance générale d'écoute.
Je pense qu'on avait aussi une conscience de certaines de nos limites, une intuition, de se dire ça pourrait peut-être tourner en rond dans le sens est-ce qu'on fait que reproduire ce qu'on a déjà fait avant ? On avait déjà fait un skatepark en béton avant, même plusieurs pour certains d'entre nous, quoi. Et puis et je trouve que non, ça n'a pas été qu'un skatepark et ça n'a pas été que des skateurs. Mmh. En tout cas, à ce moment-là, les skateurs, ils ont commencé à vraiment sentir un basculement, une transformation du lieu, avec la création d'une zone de vie. Mais finalement, cette transformation, elle s'opérait aussi dans les êtres, quoi, dans les corps, dans les esprits, et jusqu'au point de questionner, c'est quoi un corps collectif, en fait ? Comment on met en mouvement un corps collectif ? Est-ce que c'est juste des corps individuels qui décident de s'activer autour de quelque chose ou dans une direction ? Ou est-ce que... C'est quoi les ingrédients de cette alchimie qui s'est produite à ce moment-là, en fait ?
La recette de cuisine.
Oh, Benjamin ! T'as pas pris de botte en fait ?
Ah bah non, c'est des chaussures de montagne !
Je pensais que t'avais des bottes. Ok. T'as des chaussures de rechange?
Non, j'ai deux chaussettes.
Ok.
Samedi 17 février. Manœuvre. Acheminement de bois pour le feu. Installation espace documentation. Cantine et buvette. Visite de 5 jeunes collégiens du GPS, accompagnés de Diane et sa collègue. Présentation et exploration de la zone. Découverte du site archéologique. Session de skate et de trottinette. Discussion. Préparation de crêpes et de chocolat chaud sur la zone de vie pour le goûter. Bricolage d'un poste de radio cassé. Un jeune, très bavard et débrouillard, Ben, demande s'il pourra revenir. Allumage des barils et ouverture de la buvette vers 18h30, après le départ des jeunes, qui aimeraient bien rester pour la fête. Une quarantaine de personnes durant la soirée, Gilles donne un concert de guitare dans la cabane. Ascension de la colline de Grava, un maître chien avec une lampe torche nous observe depuis le dépôt de bus. Arrivée de la pluie vers 1h30, installation d'une bâche, pogo dans la cabane, fermeture, 4h30.
Dans la communauté franc-maçonne, quand tu débarques et que t'es invité par un parrain, t'es censé te taire pendant 2 ans pour regarder ce qui s'y passe au sein de la communauté franc-maçonne, t'éduquer en silence, et ensuite t'as le droit à la parole. Un peu comme l'enfant qui, dans certaines communautés, n'a pas le droit de parler, ou dans le système éducatif français, en fait. Où tu dis « chut » à un gamin quand il fait trop de bruit ou que t'as pas envie de l'entendre. Mais il n'y a pas d'adulte à qui tu dis « chut ». Tu ne te permettrais pas.
On n'est pas parti avant...
de quand
et même sur le au moment de passer à l'aéroport, le mec il a bugué.
Le moment où j'ai commencé à emmener des jeunes sur la zone, c'est un peu le moment où ça a basculé. Je me suis dit j'ai ma place ici et je me suis affranchie de vous pour devenir usagère du lieu. On venait, on courait, on criait, on sautait dans les flaques de boue. C'était ça ce qui se passait à l'Île-aux-Herts. C'est un terrain dans lequel les codes s'effondrent. Les codes de la ville, les codes sociétaux, les codes comportementaux. Tout était remis en question.
Ça marche mal. Je sais même pas ce que c'est, mais... Et venez, on monte et on redescend. Et la pluie en plus, tu vois.
Ça a bien glissé.
Allez,
le petit gars à qui on interdit tout à la maison, ou bien à qui on donne des cachets pour apaiser son hyperactivité, qui a un besoin vital de se dépenser, tout à coup, il est plus contenu. On lui dit qu'il peut courir dans tous les sens. Là, c'est un monde qui s'ouvre à lui.
Elle accroche !
L'Île-aux-Herts devient un espace d'expression. L'adolescent qui comprend rien aux règles imposées par les adultes se construit ses propres règles. Donc, premièrement, il est accepté comme il est. Deuxièmement, il s'éduque en même temps que nous.
Oh,
c'est dur !
Tu voulais... jouer le rôle d'un animal mythologique à sauter dans tous les sens et essayer de voler.
Oui!
Tu rentres en collision?
Vas-y! Ah, il y a de la
moi, je peux avancer! C'est mort! Est-ce
qu'on peut la ressortir?
Sur la zone, on devenait presque des animaux. C'était ça qui me plaisait dans le fait d'emmener des adolescents sur l'Île-aux-Herts. Parce que l'adolescence est une sorte de chantier à lui tout seul. Il vient à peine de naître, son corps il se met à faire des trucs chelous, tout change à une vitesse folle, il découvre de nouvelles choses sans arrêt. On essaye de le contenir pour pas qu'il déborde trop ou qu'il fasse de conneries, et lui il veut qu'une seule chose, c'est faire des conneries, voir où ces conneries vont le mener.
Je précise qu'on est nous aussi des vieux ados.
Le comportement des jeunes. Quand on passe par la route, on marche sur le petit chemin d'animal, on arrive sur la zone, et là les réactions variaient. Mais c'est la ZAD ici, disait petit Benjamin. D'autres disaient « bof, le skatepark de la poterie, il est vachement mieux. » D'autres, wesh, c'est ghetto, t'es sûr qu'on risque rien? Les réactions des jeunes sont imprévisibles. Elles sont empreintes d'un certain conditionnement, d'une éducation, d'un milieu social, de plein plein de choses. Mais souvent, une fois cette première impression dépassée, hop, c'est comme un mur qui tombe. On leur disait plus ou moins, ici vous êtes libre. Quoi? Je peux faire ce que je veux? Et là, en général, on rentrait dans une phase test de l'adulte. Ah ouais? Et si je fais ça? Et si j'escalade ce mur-là? Et si? Et si? Le ou la jeune ne comprenait pas. Et d'abord, pourquoi on nous parle comme si on était des adultes? Il se passe quoi ici, yo? Là, t'as un petit jeune qui porte un bandana et qui dit « Est-ce qu'ils se rendent compte que je suis un enfant ?» On faisait les choses dans l'ordre. Expérience, questionnement, conséquence. De cette manière, les jeunes semblaient comprendre sincèrement la raison d'une mise en garde, voire d'une interdiction. Ils étaient reconnaissants qu'on leur parle de manière égale et intelligente, qu'on leur fasse confiance.
La particularité est de mettre à disposition des enfants un certain nombre de matériaux qui puissent se transformer avec les outils qu'on met à leur disposition, et de la façon dont ils veulent, en faire ce qu'ils veulent, des cabanes, des chariots, des... suivant leurs imaginations.
Ce terrain d'aventure où chacun fait ce qui lui plaît a mis du temps à être réalisé. Il est le fruit de 2 années de démarche et il faut le dire, il est encore un peu suspect dans un pays où de telles réalisations sont pour le moment l'exception. Alors qu'il en existe des centaines depuis des années en Allemagne, en Suisse et en Angleterre. En Angleterre, où un projet de loi prévoit même qu'on ne pourra plus à l'avenir construire de quartier neuf sans installer un pareil terrain de jeu. Un éducateur spécialisé est là à titre permanent pour encadrer les jeunes, pour les conseiller et parfois pour abriter les petits conflits qui naissent inévitablement. Cet éducateur est d'ailleurs aidé par plusieurs bénévoles qui l'assistent pendant leurs loisirs. 2 vieilles planches, 2 vieux pneus, quelques kilos de clous, il n'en faut pas plus pour ravir les gosses qui, l'imagination aidant, feront d'une vieille baraque le plus magnifique des châteaux.
Quand j'arrivais sur la zone avec un groupe de jeunes, j'étais pas la seule en charge du groupe d'adolescents avec qui je me déplaçais. On devenait tous éducateurs. On avait tous une posture d'éducateur. Enfin, celui qui se sentait aller vers le groupe de jeunes pour leur transmettre ou leur donner des clés, des indices sur ce qui se passait. Là, la responsabilité était partagée. C'était une zone dans laquelle le jeune pouvait s'exprimer et se lâcher. C'était pas non plus une zone non hors de contrôle.
Les pédagogues de rue vont aussi faire transiter ces petits groupes d'enfants ou de jeunes dans des espaces qui sont souvent, voire toujours considérés comme infréquentables par des pédagogues professionnels, mais aussi par des parents. Et là, l'exemple de l'île O'Hare, il est voilà, très parlant. C'était une zone, on va dire, illégale. Et en pédagogie sociale, on ne s'arrête pas à ça. Et on va y jouer les curieux.
De la part du groupe, j'ai l'impression que au départ, on ne comprenait pas trop qu'est-ce que ces jeunes faisaient là. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça... Mais à force d'activité, ça apportait quelque chose de différent, quoi. Et les postures au sein du groupe, elles ont évolué, elles ont... Ça s'est assoupli. Et ça s'est carrément ouvert jusqu'à laisser ce mot sur la cabane qui a été construite dans la zone de vie, disant « Voyageur, si tu as besoin de te réfugier, utilise cet espace. » on avait des postures qui étaient très diverses et ça nous empêchait pas quand même de faire des choses ensemble et de s'exprimer. Parce que il y avait cette importance des mots sur les gestes. Pour moi, ça peut être un frein à agir, de trop réfléchir au sens d'une action. Mais l'IOR, dans toute sa radicalité, m'a fait redevenir copain avec les mots. Ça a permis, c'était notre chantier à nous, quoi. On n'était pas tous sur la même longueur d'onde, et ça permettait de le... Ça faisait vibrer quelque chose, quoi. Là, j'écris « Mon idéal de monde sans frontières a toujours été vain, et ça depuis le départ. Je me prends des coups de fouet à la gueule. On me dit non parce que tu es une femme. Non parce que tu fais pas de skate. Non parce que t'es vieille, t'es jeune, t'es grande, t'es ci, t'es ça. » Et là, c'est plein de petites portes qui sont claquées. Bam, 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 bam. Et je pousse, je pousse, je pousse. Quand ça s'en trouve, j'y vais. Et là, c'est un personnage avec une énorme clé dont la base est une planche de skate et l'extrémité est une clé. Et la personne avance avec cette énorme clé que j'appelle le trousseau pour ouvrir toutes les portes.
R22 Tout Monde, antenne IOR. Épisode 4, Vaguer. Avec les voix de Diane, Tito et Seb. Extrait. Témoignage de Robert, récolté par Satellite Explorer en octobre 2017. Terrain d'aventure à Lameno, archive INA, 1975. Formula One de DJ Visage, Schumacher Song, 1998. Et la voix de Guillaume Sabin, extrait du 4e plateau du Tout Monde, Rennes, 2021. Musique par Suichefou.